Est-ce que c'est la montagne qui est tueuse? Non. C'est qu'à un moment donné, on s'est exposé sur des itinéraires qui étaient avalancheux, qu'on a pris les mauvaises décisions. Donc c'est des erreurs humaines.
Des erreurs humaines. À 8125 mètres d'altitude, même les alpinistes les plus aguerris, comme Elisabeth Revol, en font. Mais malgré les risques, malgré le manque d'oxygène et un froid qui vous pénètre les os, cet himalayiste nourrit une passion absolument viscérale pour les plus hauts sommets. Une addiction qu'elle partageait avec son compagnon de cordée, le Polonais Tomasz Makiewicz, alias Tomek. Le 25 janvier 2018, ils partent tous deux à la conquête du Nanga Parbat, la montagne nue, 9e plus haut sommet du monde au Pakistan. Alpinistes intrépides, face à un géant de granit et de neige verglacée, Elisabeth Revol nous raconte la terrible ascension qui a marqué sa vie à jamais.
On est le 25 janvier, on est parti pour la tentative sommet sur le Nanga Parbat. Le lever de soleil est magnifique sur la Ratna Zerno, la pyramide Somipal. Quand on se lance dans ce type de challenge, on ne va pas réussir du premier coup. Et c'est une montagne qui prend du temps parce que c'est technique, parce qu'on est en hiver sur des conditions qui sont compliquées. Et une fois qu'on la tente en fait en hiver, on répond à un certain nombre de questions et on continue à en avoir parce qu'on n'a pas atteint en fait le sommet. Donc on va devoir retenter une deuxième fois, une troisième fois, voire une quatrième fois si ça passe pas. Donc pour moi c'était la quatrième fois et pour Tomek c'était la septième fois. On partait donc sur un nouvel itinéraire qui était moins exposé en fait aux avalanches, moins technique en fait que la voie normale. Donc on partait nous explorer le glacier du Diama, qui continue à être en fait dans la face Diamir, mais un petit peu plus sur la gauche. Pour moi, c'était vraiment important de le grimper en fait en style alpin. C'est le fonctionnement qu'on a en France dans les Alpes en fait, où on part d'une vallée ou d'un refuge et on va sur la montagne directement sans poser des cœurs intermédiaires et on porte notre matériel. Donc en fait, en Himalaya, quand on parle de style alpin, c'est exactement le même style. On a un matériel assez léger. Après, forcément, on était lourd parce qu'en hiver, on amène plus de vêtements, on a plus de gaz, donc on était dans tous les cas quand même chargé et on évoluait tous les jours à notre rythme du coup. C'est un mélange d'adrénaline, d'effort, de dépassement de soi, d'émerveillement, parce qu'on est, dans un endroit moi, qui m'émerveille, qui est passionnant, qui est magnifique, qui est d'une beauté et d'une pureté qui est assez incroyable, où j'ai vécu simplement de façon authentique et je me suis émerveillée en fait, de toutes petites choses que j'arrive plus à voir en France. Forcément, il y a des moments où on se dit « mais qu'est-ce que je fous dans cette galère ?» Et puis, on a des petites récompenses, on a un rayon de soleil, on a une pause. Enfin voilà, c'est des petits détails en fait, dans les ascensions qui font qu'elles sont à ce moment-là exacerbées et que ces petits riens, eh bien, en fait, on en prend toute la saveur à cet endroit-là. Il n'y avait personne, on était seuls sur la montagne. Dans cette ascension, on grimpait en fait ensemble, en communion. On utilisait en fait les qualités de l'un et les qualités de l'autre en fait pour faire une cordée complémentaire. Et moi voilà, j'étais toujours un peu plus rapide. Tomek, il mettait toujours un petit peu plus de temps à partir, à décoller. Puis il avait un rythme un peu plus lent. C'était sa philosophie aussi de la montagne et sa façon d'être sur la montagne. Il a été énormément blessé en fait par l'ascension de 2016 où il y a trois personnes qui sont allées au sommet et qui lui ont ravi un petit peu ce sommet et cette première. Et à partir de là, il est rentré dans un espèce de phénomène un peu destructeur où il voulait chercher des preuves comme quoi ils n'étaient pas allés au sommet. Et du coup, c'est devenu un petit peu obsessionnel de dire « bah ouais, moi j'y suis allée, je peux vous ramener un 360, il s'est passé ça là-haut. Je vais prouver aux autres que moi j'y suis montée et que finalement ils n'y sont pas allés. » Et du coup, je pense que ça a transformé un petit peu les choses chez lui. Et moi, en tout cas, ça m'a pesé quand j'étais au camp de base cette année, parce qu'il y avait ce sujet qui revenait en permanence. Et ça a cassé en fait quelque chose à ce moment-là. Tomek, vrai qu'en fait, il a vécu en fait des choses extrêmement fortes sur la montagne tout seul, avant qu'on se rencontre. Au départ, c'était vraiment un sentiment très pur de se tourner vers Ferry, vers la divinité en fait de cette montagne. C'est une légende en fait, une personne qui habiterait en fait cette montagne, ça serait une femme. Après, il y en a qui disent que finalement c'est un couple, mais en gros, la montagne elle est habitée par quelqu'un. Et elle décide un petit peu sur la montagne qui va aller au sommet et qui ne va pas au sommet. Ton mec, dans tous les cas, il est rentré là-dedans. Et après, Ferry, en fait, décidait un petit peu la voie ou décidait par rapport à la météo ou des choses comme ça. Donc, en fait, Ferry avait pris énormément de pouvoir. Elle visitait des fois ton mec dans des rêves et le matin, il m'en parlait. Donc, c'était un côté vraiment mystique et vraiment particulier où, au départ, moi, je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et puis après, il était tellement sincère et tellement les yeux en fait rayonnants quand il parlait de ça, où je me suis dit, bah ouais, il y a peut-être aussi autre chose. Et je pense qu'on est complètement libre sur la montagne d'avoir les pensées qu'on veut. Et quand il voulait s'isoler pour voir si un chemin était bon ou pas bon, il n'y avait aucun souci. Pour moi, une montagne, c'est une montagne. Ça reste une montagne. Et le mot tueuse me va pas parce que oui, il y a eu des morts en fait sur cette montagne, mais est-ce que c'est la montagne qui est tueuse? Non. C'est qu'à un moment donné, on s'est exposé sur des itinéraires qui étaient avalancheux, où ça veut dire qu'on a pris les mauvaises décisions. Donc c'est des erreurs humaines, clairement. Donc c'est pas la montagne qui est particulièrement dangereuse. Après, les itinéraires sont compliqués sur la montagne, donc c'est des itinéraires qui sont techniques, qui sont hauts, où on part sur des longues ascensions, ça fait 4000 mètres à la face. Donc c'est pas une voie normale qui est classique, c'est une montagne qui est difficile.
Il est 5h, on va peut-être finir de nuit, mais je pense qu'on va finir. Thomas qui arrive.
Et c'est pas mal nuageux aujourd'hui. Mais on va terminer ce sommet, je pense.
Je savais qu'on était pas loin, l'horaire était tardif. Moi, j'étais prête à faire demi-tour. Thomas était prêt à faire demi-tour aussi. Sauf qu'à ce moment-là, on est pas loin du sommet. Il y a une émotion énorme qui s'empare de moi et de Thomas parce qu'on peut y aller à ce moment-là dans des conditions qui restent correctes, où les voyants sont ouverts encore. Et on a décidé ensemble. Je pense que si à ce moment-là, Thomas il avait le moindre signe ou il avait exprimé le moindre doute, on aurait fait demi-tour. Mais à ce moment-là, tout roule. On prend la décision d'aller, on y va. Mais on approfondit pas trop non plus la question, à trop se regarder et à se dire... Parce qu'il y a toujours une inconnue, il y a toujours une part de nous qui veut y aller, mais une part aussi qui retient, parce que voilà, il faut jongler hein, quand même avec ça. Quoi. Parce qu'il y avait très peu de créneaux. Nous, ça faisait 3 semaines qu'on attendait ce créneau-là. On était fin janvier. Après, on sait que la météo en février, parce qu'on a une connaissance de la montagne, il y a beaucoup de neige qui arrive. Nous, notre itinéraire était trop avalancheux quand il y a beaucoup de neige. Donc, on était obligé de revenir une autre saison pour faire ça, pour faire le Nanga Parbat. Ça a influencé la balance. Et quand on attend réellement les choses et qu'on a passé du temps, et voilà, il y a cette émotion qui nous prend, quoi, où on veut y aller.
Ferry a-t-elle envoûté les deux alpinistes sur le Nanga Parbat? Arrivé au sommet, le sommet tant convoité, comme une malédiction, Tomek perd brutalement la vue. Frappé d'un mal aigu des montagnes, ses forces l'abandonnent. Commence alors une descente éreintante et effrénée. Mais le temps est compté et Elisabeth Revol doit choisir. Laisser Tomek pour aller chercher des secours ou rester auprès de son ami et se condamner.
À partir du moment en fait, où il est arrivé au sommet, déjà, il n'y voyait plus. Donc, il n'a pas vu en fait, le sommet. Et après, en fait, il était fermé, loin en fait, dans ses pensées, perdu. Et moi, je lui parlais, mais en fait, il ne me répondait pas par rapport à ça. Donc, je lui ai parlé du sommet. Je sais qu'il était en contact forcément avec Ferry dans cette descente, fermé dans ses pensées, très certainement avec ça. Moi, j'avais l'impression de faire un monodialogue, en fait, où je lui parlais, je le motivais, j'essayais de lui donner des attaches, en fait, par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants, je lui disais, voilà, on va arriver au camp de base, on aura de la chaleur, demain, ça sera qu'un mauvais souvenir. Donc, j'étais tout le temps, en fait, dans le positif et dans la motivation pour essayer de le guider en bas et de l'amener à quelque chose. Mais comme je vous dis, Tomek, il était dans ses pensées, il était loin, et c'était des réponses oui, non, il y a eu très peu, en fait, de dialogue dans cette descente. C'est clairement l'organisation des secours qui a fait que, voilà, à un moment donné, je me suis dit, mais si moi je descends pas, ça veut dire que je le condamne. Et je me condamne en même temps. Donc c'était un dilemme en fait ultra compliqué où dans l'organisationnel des secours, je devais descendre plus bas pour espérer un secours à cette altitude-là. Et c'est la décision la plus terrible qu'on a à prendre dans sa vie parce que se séparer de quelqu'un quand il est dans cet état-là, c'est tout simplement pas possible. Mais à ce moment-là, pour moi, je l'abandonnais pas parce que j'allais chercher des secours. Tout le temps, c'est ce qui m'a raccroché. Je savais que voilà, demain, ça, les hélicos arrivaient, donc on sortirait en fait de cet enfer, ils sortiraient de cet enfer. Et au fil du temps, après, moi, clairement, ce qui m'a rattachée, c'est mon mari, c'est mes attaches en France, c'est la vie, quoi. Où là, à un moment donné, si le mental lâche, c'est terminé. Donc après, c'est tout un tas de petites choses qui reconnectent et on se dit, mais non, c'est plus le moment sur cette montagne. Puis après, je pense que c'est des mécanismes de survie qui se mettent en place automatiquement ou c'est l'instinct, quoi. Clairement, l'instinct de survie qui guide vers le bas. Moi, je suis arrivée à l'altitude qu'on m'avait demandé d'atteindre. Et à partir de ce moment-là, j'ai attendu les nouvelles. Et là, j'ai su qu'en fait, les hélicos n'arrivaient pas et que l'opération de secours était reportée au lendemain. Moi, j'étais posée sur un caillou à ce moment-là. C'était en fin d'après-midi, donc je me suis retrouvée en fait très seule. Et j'hésitais en fait entre remonter pour protéger Tomek ou attendre que les secours soient ici. Après, c'était en fin de journée, moi, j'avais plus de frontal, donc c'était clairement impossible en fait que je remonte, sinon je me serais paumée. Et là, je me dis, si je reste sur ce caillou, je peux pas passer la nuit. Donc il faut que je trouve quelque chose. Et c'était un endroit, en fait, où il y avait une pente, et c'est providentiel qu'il y ait eu une crevasse à cet endroit-là. Parce que là, il y avait rien pour s'abriter. Et en cherchant, je tombe sur ce trou, et au moins, je peux m'abriter, et je peux arriver à passer un bout de nuit, sinon c'était terminé aussi. La tête, en fait, elle décroche parce qu'on est dans un état d'épuisement, en fait, total. Et du coup, c'est des phases de sommeil paradoxal qui sont vraiment très courtes, où on est présent physiquement, mais on est déconnecté et on est dans son rêve, quoi. Et voilà, à ce moment-là, moi, j'avais extrêmement froid. Donc, qu'est-ce que le rêve m'a envoyé, en fait, sur de la chaleur? Et là, il y a une vieille dame qui arrivait, en fait, avec du thé chaud et qui me disait, j'ai besoin de tes chaussures, en fait, en échange. Alors, je l'avais accepté, forcément, parce que j'avais froid. Et après, j'avais aussi un feuillet d'aluminium en fait dans ma chaussure où j'avais qui me tenait froid. Et donc c'est à ce moment-là en fait, là je pense que je me réveille en fait où j'enlève ma chaussure et j'enlève ce feuillet d'aluminium. Et après je suis trop épuisée en fait pour le remettre. Et là je pense pas aux conséquences parce que j'étais déjà dans un moment où c'était super compliqué en fait pour moi. Je sais qu'après je me suis réveillée, j'ai regardé l'Inrich, c'était 3-4 heures du matin. Je me dis où elle est passée en fait ma chaussure, et sauf que moi j'avais bougé à ce moment-là et donc je l'avais envoyée dans la crevasse, donc je pouvais pas la remettre. Donc après j'ai essayé de protéger mon pied comme je pouvais, mais sauf que là forcément la combi elle a glissé et je me suis retrouvée en chaussette, quoi.
Elisabeth. Nice to see you. Adam, I have you.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Denis Sroubko, l'un des deux alpinistes qui ont grimpé au secours d'Elisabeth Revol alors qu'elle poursuivait sa descente à 6000 mètres d'altitude. Après deux nuits d'attente et de survie, sans boire, sans manger, son cauchemar prend fin le 28 janvier 2018 à 1h50 du matin. Mais il n'y a plus aucun espoir pour Tomek. Anéanti par le chagrin et par la culpabilité, Elisabeth Revol comprend alors qu'il ne reviendra jamais du Nanga Parbat.
Au départ, je me suis dit, la première montagne où je regrimperai, ça sera le Nanga Parbat, parce que je voulais vraiment y retourner pour Tomek et pour plein de choses. Je sais que je vais retourner dans la vallée du Diamir, parce que voilà, on a un projet humanitaire dans le village de Serres. Donc je vais de nouveau retourner au pied du Nanga Parbat l'année prochaine. Après, je pense que, je sais pas, c'est compliqué. Au retour du Nanga Parbat, je me suis dit, mais on est allé trop loin. On a eu un accident, donc forcément on est allé trop loin, on a pris des mauvaises décisions. Et là, à partir de ce moment-là, on se dit, mais où j'allais? Et moi, je me suis complètement remis en question par rapport à ces années, finalement, de pratique où je jonglais d'objectif en objectif sans réellement me poser. Et j'étais emportée par ma passion, tout simplement. Mais en fait, je vais où, hormis rebondir d'objectif en objectif, m'évader, penser à repartir après en expédition, faire un objectif qui est encore plus important, plus difficile. Où est la limite? Quelle est la limite? Le Nanga Parbat avait été tellement violent qu'il fallait que je me détache et que je revienne en fait sur la montagne de façon sereine, sans prendre de risques et simplement m'immerger en fait en montagne et en haute altitude. J'ai pris ma décision en fait au mois de mars pour partir en fait sur l'Everest au mois d'avril. Mais à ce moment-là, je me suis forcée pour y aller parce que j'avais plein de questions. Mais c'était un réel besoin aussi que j'avais à ce moment-là et je voulais de nouveau mettre des émotions en fait positives pour essayer un peu d'effacer en fait tout ce que j'avais vécu depuis cette année-là et depuis le Nanga Parbat. J'avais aucune appréhension en fait à repartir seule, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai plus envie en fait de m'engager avec quelqu'un encordé à deux sur un itinéraire qui n'est pas classique. Là, moi, j'étais sur des voies normales, équipée, avec des cordes fixes. Après, forcément, j'ai eu des moments où j'étais réellement seule, en fait, sur la montagne, de nuit, où j'avais éteint ma frontale, et il y avait la lune qui réverbérait sur le verglas, enfin, sur la glace vive. Donc, voilà, il y a eu des moments où je me suis vue un petit peu sur le Nanga. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, en fait, sur l'Everest. Il y a beaucoup d'oppression, d'amertume qui est partie. Enfin, voilà, moi, il y a plein de reconnexions qui sont faites avec la vie, tout simplement. Clairement, ça m'a sauvée.
Les histoires de 28 minutes. Un podcast à écouter sur arteradio.com.